en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie des Beaux-Arts, Mesdames et Messieurs, le musée Giraudet est très honoré d'être accueilli aujourd'hui dans votre assemblée et nous vous prions d'accepter toute notre gratitude pour cette très belle tribune. Notre musée porte le nom d'un académicien illustre qui a siégé ici il y a 200 ans pour la première fois. Associer son nom à la célébration du bicentenaire de la création de l'Académie prend ainsi un sens tout particulier et il convient de le souligner parce que la figure de Giraudet est celle d'un artiste nommé par le roi dans l'acte même de création de l'Académie des Beaux-Arts. Sans compter, monsieur le secrétaire perpétuel, que le fauteuil occupé par Giraudet, le fauteuil 11, est le vôtre. Ensuite, parce que les idées de Giraudet en 1816, ses vues sur les arts, ses vues sur les institutions, correspondent parfaitement à l'esprit dans lequel s'est effectuée cette renaissance de l'Académie. Enfin, parce que ses activités en tant qu'académicien sont représentatives réellement de ce foisonnement intellectuel qui anime les années 1815-1820. Tout d'abord, permettez-moi juste une petite précision à propos du titre adopté et ce mot de renaissance qui pourra peut-être vous étonner puisqu'il s'agit quand même d'une création aussi. Nous célébrons, il est vrai aujourd'hui, l'apparition d'un nouveau corps distinct et différent de ce que fut la quatrième classe de l'Institut, mais qui a été conçu dans un esprit de restauration d'un ordre ancien. Et un journal publiant l'ordonnance de création de l'Académie annoncé par exemple dans le titre de son article « Récréation des anciennes académies ». Alors ce terme de récréation pourrait porter à confusion, aussi j'ai choisi le terme de renaissance qui m'a paru préférable. Ensuite, vous aurez peut-être remarqué que j'ai utilisé le terme « nomination de Giraudet » et non pas « élection », car en effet son accession à l'Académie s'opère dans des conditions toutes particulières. On se rappelle donc que les académies furent supprimées en 1793 à l'instigation du maître de Giraudet, Louis David, soutenu par François-André Vincent. Et Giraudet, je dois l'avouer, y a applaudi, puisqu'il était à ce moment dans sa période jacobine extrême. Cependant, Giraudet avait assez d'indépendance et d'esprit pour être bien conscient que ce qui poussait David à agir ainsi était, et là je cite les mots de Giraudet, l'ambition a étouffé chez David tout autre sentiment. C'est ce qu'il avouait dans une lettre à son père et à son tuteur, le docteur Triauzon, en mai 1793. Donc la Convention nationale crée ce nouveau corps le 25 octobre 1795, donc à l'instigation essentiellement de Daunou et de l'abbé Grégoire, c'est-à-dire 15 jours après le retour d'Italie de Giraudet. David en devient tout de suite membre, ainsi que Vincent et leur maître à tous deux, vient. Donc à ce moment-là, l'Institut regroupe en quelque sorte tous les ténors de la peinture de la fin du XVIIIe siècle. La première réunion de l'Institut se tient le 4 avril 1796 dans la salle des Cariatides au Louvre. Donc, je vous présente ici cette vue de la première réunion de l'Institut au Louvre dans la salle. Et avec un mobilier qui a spécialement été créé pour l'occasion, un ensemble de tables avec des griffons dorés qui est heureusement conservé dans la bibliothèque de l'Institut et donc qu'on a le bonheur de pouvoir encore regarder. À sa naissance, cet Institut comprenait trois classes, dont la classe de littérature et beaux-arts. Donc le nom pourrait surprendre, mais il est issu de cet esprit encyclopédique qui voulait regrouper un petit peu tous les savoirs et toutes les sciences. Et à ce moment-là, cette troisième classe comprend par exemple autant de grammairiens que d'acteurs ou d'archéologues, voire de peintres, comme l'explique le grand historien de l'Académie, qui s'appelle Henri de Laborde. Cette classe avait été composée, et là je cite les mots d'Henri de Laborde, en partie des débris de l'ancienne Académie française et des débris de l'ancienne Académie royale de peinture et de sculpture. Donc une seconde organisation a lieu en 1803, comme vous l'avez rappelé, sous l'égide de Bonaparte, et la classe est alors subdivisée en deux, séparant l'histoire et littérature des beaux-arts eux-mêmes. Naît alors vraiment cette classe avec cette appellation beaux-arts, avec une section supplémentaire de gravure. Et à ce moment-là, des personnalités qui relèvent uniquement de ce domaine et qui forment la base de ce que deviendra l'Académie en 1816. Donc cette nouvelle quatrième classe conquiert tout de suite une certaine indépendance et elle redevient peu ou prou ce qu'était l'ancienne Académie de peinture et de sculpture sous l'Ancien Régime. Le nombre de membres passe à ce moment-là de 24 à 28 et auxquels s'ajoutent quelques membres associés étrangers, ce qui est une nouveauté. Et c'est parmi ces membres associés, on peut compter Benjamin West, Haydn, Klopstock ou Antonio Canova. Les proches et les condisciples de Girodet vont tous entrer peu à peu à l'Institut, sous le Consulat et sous l'Empire. Donc François-Xavier Fabre, le premier, est nommé membre correspondant en 1804. En 1811, c'est ce grand ami de Girodet, Chateaubriand, qui est élu aussi, mais vous le savez, il n'a jamais été reçu. Et c'est alors, en 1811, que Girodet désirait vivement, lui aussi, faire partie de l'Institut. Et Fabre s'en amusait tout en se moquant et en écrivant à leur ami commun Bertin Lainé, le créateur et le directeur du Journal des débats. Donc voici les mots de Fabre à propos de Girodet. Vous avez vu, par les journaux, que M. de Chateaubriand vient d'être nommé de l'Institut. Percier a été reçu samedi dernier de l'Institut. Fontaine sera reçu mardi prochain. Les peintres de l'Institut sont immortels. Immortalité qui fait enrager notre ami Girodet. Et Piquetou, l'éternel rival de Girodet, François Gérard, sera lui aussi élu à son tour le 7 mars 1812. Girodet avait cependant déjà été nommé membre de l'Académie des Beaux-Arts de Florence le 1er mai 1810 et membre de l'Académie de Saint-Luc à Rome grâce à Antonio Canova, qu'il avait fait élire avec David, Gros, Gérard et Guérin dès novembre 1811. Mais cette élection dans des académies illustres ne pouvait remplacer pour Girodet l'élection au sein de la quatrième classe de l'Institut, héritière de l'Académie de peinture, puisque nous devons le rappeler, l'importance qu'il y avait à être membre de l'Académie sous l'Ancien Régime était une chose vraiment essentielle pour un peintre, puisqu'elle distinguait les artistes des artisans. C'était un statut qui conférait à l'artiste la possibilité de recevoir des commandes royales et le distinguer en fait du reste des peintres. Donc l'élection de Girodet s'opéra enfin, mais dans des conditions finalement assez rocambolesques, puisqu'elle s'étend sur deux années, en 1815 et en 1816, et de manière aussi assez inattendue, puisque finalement c'est grâce à Louis-David, son maître, avec lequel il est entré un petit peu en opposition à ce moment-là, qu'il est élu. Donc peu après la première restauration, le 6 juillet 1814, la classe des Beaux-Arts demanda au roi à ce que le nombre de ses membres fût porté de 28 à 40. Le temps que l'administration considère cette demande, Napoléon revient de l'île d'Elbe. Et c'est donc sous les 100 jours que cette requête adressée à la royauté fut satisfaite, mais donc par l'empereur. Le décret paraît le 27 avril 1815, il est signé par Lazare Carnot, qui est alors ministre de l'Intérieur, et c'est en effet de ce moment que date la lettre officielle de candidature de Girodet, adressée à l'Institut le 10 mai 1815. Donc voici la lettre. « Messieurs, je vous prie de vouloir bien m'admettre au nombre des candidats qui se présentent pour remplir une des places auxquelles vous avez à nommer dans la section de peinture. J'attends moins l'honneur de votre suffrage de mes faibles titres à l'obtenir que je ne l'espère de votre extrême indulgence. Je suis avec une haute et respectueuse considération, messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur Girodet Triauzon. » Ce qui permet à Girodet d'être élu le 20 mai suivant, dans la quatrième classe, première section, donc peinture, et le procès-verbal porte « Le premier scrutin ayant donné la majorité absolue à M. Girodet, M. le Président le proclame élu pour être membre de la section de peinture. Et je vous présente ici cet autoportrait qui est daté de 1815 et qui sans doute immortalise cet instant où enfin Giraudet obtient le titre d'académicien. Vous pourrez en voir une contre-épreuve dans l'exposition ce soir. Donc cette élection de Giraudet dans une période pour le moins mouvementée lui fait cependant éprouver quelque embarras. Il s'en ouvre à sa bonne amie Julie Candeille dans une lettre datée du 11 juin 1815. « Je viens d'être nommée à l'Institut. Il y a 2 ans que j'eusse été très sensible à cet honneur. Aujourd'hui, ce qui touche à ma personne même et à mes amis et l'attente des événements qui vont se passer m'occupe exclusivement. » En fait, au moment où il écrit, Napoléon est en train de rassembler ses troupes pour attaquer la Belgique et la bataille de Waterloo aura lieu quelques temps plus tard, quelques jours même plus tard. Donc la seconde restauration s'empresse évidemment de faire oublier le gouvernement des 100 jours. Et par conséquent, Étienne-Denis Pasquier, qui est alors le ministre de l'Intérieur par intérim, annonçait à la 4e classe, dans une lettre du 2 août 1815, que pour des motifs d'économie, le gouvernement était contraint de revenir à l'État qui était celui de cette 4e classe sous la Restauration. C'est ce qui voulait dire supprimer les 12 postes supplémentaires créés. Et donc ceux qui étaient élus, à la suite d'un décret paru le 27 avril 1815, et là je cite Pasquier, ne devaient point se considérer comme faisant partie du corps de l'Institut. Donc cette décision affectait évidemment Giraudet, mais aussi avec lui les peintres Guérin, Le Barbier, Gros, Meynier et Horace Vernet, élu comme lui à ce moment de 1815. Donc on envoyait en quelque sorte ces renégats des 100 jours au purgatoire. Cette décision paraissait d'autant plus justifiée que c'est ce régicide de David qui avait alors appuyé l'augmentation du nombre des membres de l'Institut, enfin de cette 4e classe de l'Institut, et permettant ainsi à 2 de ses élèves, Gros et Giraudet, d'accéder au titre d'académicien. C'est un petit peu injuste pour Giraudet parce qu'il a toujours fait figure de royaliste sous l'Empire. Il était déjà engagé aux côtés de Chateaubriand, il avait fait le portrait de De Sèze. Et là, je crois que c'est un petit péché d'orgueil. Il était si content d'être enfin nommé académicien qu'il a accepté des 100 jours et ça lui a porté un petit peu tort à ce moment-là. Mais le temps aplanissant généralement toutes les difficultés, comme nous le rappelle Moses au salon de 1833, moins d'un an plus tard, tous ces artistes élus destitués allaient retrouver leur siège grâce à l'intercession de 2 personnalités. En effet, l'ordonnance royale du 21 mars 1816, donc cette ordonnance qui crée l'Académie des Beaux-Arts, telle qu'on la connaît aujourd'hui, fut précédée de 2 textes d'importance. Le premier texte, écrit le 18 février 1816, est de la main de l'architecte Léon Dufourny, secrétaire par intérim de l'Académie des Beaux-Arts, qui adressait une lettre au ministère de l'Intérieur. Le ministre était alors le comte Marie-Vincent Viennot de Vaublanc. Donc Dufourny demandait au roi, au nom de la 4e classe, l'approbation des 12 nouveaux membres, nommés en 1815, ce qui, selon lui, permettrait de réunir l'élite des artistes. Il déplorait aussi que lors de la dernière ordonnance, la classe des Beaux-Arts avait été jugée et condamnée sans avoir été entendue. Donc en quelque sorte, il réclamait de la considération pour les décisions de cette classe qui avait été finalement assez mal prise en compte. 2 jours après cette lettre de Dufourny, un article anonyme, signé Z, paraissait dans le journal des débats du 20 février. L'auteur souhaitait prendre part au débat de la réforme, donc cette réforme programmée de l'Institut, et résumer le problème avec une antithèse, on trouve l'Institut trop jeune et les académies trop vieilles. Aussi, se permettait-il d'exposer sa propre solution de réforme. Donc le texte vous est familier puisqu'il s'agit bien sûr de cette lettre sur l'Institut de Chateaubriand, dont la bibliothèque de l'Institut a pu acquérir le manuscrit en 2014. Ce texte de Chateaubriand est fondamental, car en allant beaucoup plus loin finalement que la simple adresse de Dufourny, Dufourny lui était surtout centré sur la séparation de l'École des Beaux-Arts de l'Académie des Beaux-Arts. Donc Chateaubriand va beaucoup plus loin, et l'essentiel de ses propositions sont finalement reprises dans cet acte de création royale du 21 mars. La proposition n'est pas innocente de la part de Chateaubriand, puisqu'il l'a fait et il écrit cet article à un moment où il souhaite être nommé ministre des Cultes avec la capacité de gérer les Beaux-Arts. Et puis, il est en généralement admis maintenant que Louis XVIII s'est vraiment inspiré de cette lettre de Chateaubriand, qu'il a approuvée en quelque sorte, cette lettre sur l'Institut, pour établir les termes de son ordonnance. La date de rédaction de cette ordonnance du 21 mars correspond très symboliquement au jour anniversaire de l'entrée de Louis XVIII aux Tuileries. Donc c'est un symbole fort. Mais le texte est signé, bien sûr, de sa main, Louis, et de celle de son ministre de l'Intérieur, le comte de Vaublanc. J'aurais aimé pouvoir vous en présenter une photo donc de cet acte royal. Malheureusement, les archives nationales ne le communiquent plus parce qu'il est en mauvais état. Je vous prie de m'excuser. Donc il restaure le nom et le rôle des académies de l'Ancien Régime. Donc il organise les quatre académies telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec l'acquis du terme « beaux-arts » qui, lui, provient de l'Institut, mais dans l'acception du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le terme « beaux-arts » qui désigne désormais tous les arts du dessin, peinture, sculpture, gravure, architecture, avec cette section de création musicale. Donc c'est pour ça qu'en l'honneur du bicentenaire de l'Académie, il était aussi important de montrer des dessins à l'École des beaux-arts. Le texte royal crée une section d'académiciens libres, ça c'est une nouveauté, à l'article 21, et il stipule que la classe des beaux-arts donnera elle-même le règlement selon lequel ces académiciens libres seront choisis. Donc ça, ce côté de l'acte était pour répondre à la demande de Dufourny qui réclamait du respect pour l'autorité de l'Académie. Surtout, le texte restaure les nominations en confirmant le nombre de 40. Les élections ne sont pas organisées et ce sont ces académiciens précédemment élus sous les 100 jours qui sont directement nommés dans l'acte même du 21 mars. À l'article 17, on trouve « L'Académie des beaux-arts est et demeure composée ainsi qu'il suit et suivent tous les noms des académiciens, les 40. » Donc c'est pour ça qu'on peut dire que Giraudet est vraiment choisi le jour de la promulgation de la nouvelle Académie des beaux-arts. Donc cette année-là, ce n'est pas un portrait qu'il réalise, mais un moulage de sa main, celle-ci, que possède le musée Giraudet, que vous pourrez voir aussi dans les salles d'exposition de Comtesse de Caen. Et je pense que cette image est d'autant plus forte qu'une main créatrice, c'est quelque chose de symboliquement fort pour un peintre. Autour de ce texte et de ces deux textes préparatoires à l'acte royal, il apparaît que plusieurs personnalités proches de Giraudet concourent à la naissance de l'Académie des beaux-arts. Donc l'architecte Dufourny, dont je vous ai déjà parlé, qui milite donc pour la réintégration des élus 1815 et qui milite pour cette considération que l'on doit à la quatrième classe, est un confrère de Giraudet qu'il a côtoyé en Italie et qu'il a protégé sous le consulat et l'Empire. Chateaubriand surtout, dont l'article est très fondateur pour cette renaissance de l'Académie des beaux-arts, on connaît parfaitement les liens Chateaubriand-Giraudet, je crois qu'ils sont très bien maintenant étudiés, et ces liens ne font que se renforcer au fil de leur vie. Donc je ne vais pas revenir dessus ce soir, mais je m'appesantirai peut-être plus sur les liens du peintre avec les propriétaires du journal des débats, où Chateaubriand publie, qui sont les frères Bertin, et qui sont aussi de très grands amis de Giraudet. Donc Bertin l'aîné a commandé à Giraudet son Atala au tombeau en 1808. Giraudet fait le portrait de Bertin l'aîné en 1816 particulièrement, et le fils de Bertin l'aîné, le peintre paysagiste Édouard Bertin, a intégré l'atelier de Giraudet. Giraudet fréquente d'autre part beaucoup le salon de Bertin de Vaux, donc le frère cadet, pardon, où on parle surtout politique et art. Et il fait aussi le portrait de Bertin de Vaux que vous avez sous les yeux. Eu égard à ces liens croisés, il me semble que Chateaubriand ne rédige pas cette proposition tout seul, finalement, mais qu'il se fait plutôt le rédacteur des propositions qu'une communauté de pensée, peut-être un petit cercle d'amis, ce cercle qui inclut Giraudet et les Bertins. Son article ressemble à des réflexions communes, telles celles que pouvaient avoir les hommes du Salon des Bertins, sur les modalités d'une restauration. Doit-on restaurer un état passé et désormais disparu, ou entériner le changement ? Avec intelligence, comme le montrent les conclusions de l'article, il s'agit pour eux, pour ce groupe, de garder les acquis, en modifiant le nécessaire. À l'appui de cette proposition, je voudrais vous soumettre quelques remarques sur la fond et la forme du document de Chateaubriand. Participe à la rédaction du journal Débat un autre proche de Giraudet, Jean-Baptiste Boutard. Boutard est chargé depuis 1800 de la critique d'art au journal. Il était un camarade de classe de Giraudet, donc ils se sont connus très jeunes. Et Giraudet rappelait à son propos « Je l'ai retrouvé dans le monde à mon retour en France. Des sociétés communes nous ont depuis rapprochés davantage. » Donc ces sociétés communes, c'est évidemment Chateaubriand et les Bertins. Or, Boutard était non moins proche des Bertins puisque sa sœur, dont vous avez ici le portrait réalisé par Ingres, avait épousé Bertin l'aîné. En 1816 paraît d'ailleurs un article dans le Nain jaune réfugié qui est un journal d'opposition, qui fustigeait cette proximité entre Boutard et Giraudet, proximité qui avait toutes les allures d'une collusion. Donc voici les lignes du Nain jaune sur Boutard et Giraudet. Boutard est l'une des colonnes du journal des débats, où il juge en dernier ressort les ouvrages de peinture, de sculpture et d'architecture, avec un goût, une modération, une impartialité qui font un honneur infini, suivent six petits points, à M. Giraudet. Pour terminer, enfin, Boutard et Giraudet seront nommés ensemble conseillers honoraires des musées royaux en août 1816. Donc vous voyez vraiment cette proximité de tout un cercle, Bertin, Giraudet, Chateaubriand, Boutard. Mais revenons donc à l'article et au manuscrit de Chateaubriand. Voici quelques remarques par rapport à sa forme. Cet article est donc signé Z, comme vous le voyez ici, alors que finalement Chateaubriand n'hésite pas à signer lui-même ses articles sous l'opposition, quand il est dans l'opposition contre l'Empire de Napoléon, notamment cette fameuse diatribe de 1807 dans le Mercure de France. Le manuscrit n'est pas de la main de Chateaubriand, mais de son secrétaire. Cependant, toutes les corrections sont de la main de Chateaubriand. Vous reconnaissez parfaitement la graphie très caractéristique de l'écrivain. Et même si ce manuscrit a été en possession de Fontane, comme tous les manuscrits de Chateaubriand, puisque Fontane les relisait, il est difficile de savoir s'il est vraiment issu de la pensée propre de l'auteur ou le résultat d'une concertation. Donc vous l'aurez compris, je milite pour la seconde solution. Et je voudrais rapidement reprendre avec vous quelques points essentiels. La grande proposition de l'article de Chateaubriand, et qui n'apparaît pas auparavant, qui est vraiment de sa main, est de donner aux classes de l'Institut le nom d'académie. Il s'agit pour lui de détruire un ordre qui n'est finalement qu'un ordre numérique, et en plus dans lequel la classe des Beaux-Arts n'apparaît qu'en quatrième. Il s'agit aussi de redonner le nom d'académie lié à l'Ancien Régime, attaché, là je cite les mots de Chateaubriand, à une gloire passée, vieille d'un siècle et demi. C'est ce que reprend l'acte royal qui parle de rendre à chacune des académies leur nom primitif, et je cite l'acte ici, pour les rattacher à leur gloire passée. On voit que vraiment il y a une série de vases communicants entre les deux textes. Et Chateaubriand borne cette période de gloire passée de deux noms, Corneille et Delisle. La deuxième grande idée de l'article de Chateaubriand, c'est loin de vouloir agir comme des vandales, donc là il fait évidemment référence au vandalisme révolutionnaire, Chateaubriand se réclame d'une philosophie éclairée et souhaite garder ce que la philosophie de la Révolution a pu apporter de bon. Il s'en excuse ainsi auprès de ses lecteurs royalistes. « Par une bizarrerie de l'esprit humain, je ne laisse pas aussi d'avoir mon coin de libéralité. » Il recommande ainsi, en restituant l'ordre ancien des académies, de nommer l'Académie française en premier. Bien sûr, pour Chateaubriand, les lettres ont la préséance, car selon lui, de tous les temps, cette suprématie est évidente. Mais il ajoute également « Je ne veux pas même retrancher la quatrième classe de l'Institut » et il propose alors de lui donner ce nom d'Académie des Arts. C'est aussi à Chateaubriand que l'on doit la création d'une classe d'académiciens libres, ses membres associés qui, selon lui, seraient choisis, je cite ces mots, parmi ces riches amateurs, patrons culturels des Beaux-Arts, donc en fait des mécènes. La proposition est également retenue, vous l'avez compris, par le roi, et je vous montre ici un extrait du procès-verbal recopié par quatre maires de Quincy nommant ses membres associés. Enfin, en restituant l'ordre des académies, Chateaubriand recommandait aussi que le nom d'institut fût conservé. Il donnait à cela deux raisons. La première, c'est que le nom d'institut réunit des hommes ce sont les mots de Chateaubriand, qui ne sont pas dans l'Europe sans renommée, et c'est aussi des termes que reprend l'acte royal, puisqu'il dit et il parle de la considération et renommée dont l'Institut jouit en Europe. Donc là, c'est Chateaubriand et l'acte royal font allusion à cette renommée de l'Institut d'Égypte. C'est vraiment les travaux en Égypte qui ont donné cette célébrité illustre au mot. Chateaubriand ajoute d'autre part qu'il serait bon de réunir toutes les académies sous un même nom, car, comme des sœurs, elles ont pour vocation à se prêter mutuellement assistance. Et il détaille à ce propos, « En effet, les lettres, les sciences et les arts se tiennent par de liens secrets. » L'ordonnance du 21 mars, sans reprendre clairement ce propos, le prend en considération puisque finalement elle autorisera qu'un académicien puisse aussi postuler et se faire élire comme membre dans les trois autres académies, ce qui n'était pas possible auparavant. Enfin, l'écrivain propose deux autres choses assez essentielles, de ne pas faire d'épuration académique comme il y a pu avoir d'épuration politique, et il justifie cette position en développant longuement cet axiome, le génie artistique est supérieur aux considérations politiques. En militant ainsi contre la destitution des académiciens impériaux, il reprenait bien sûr la proposition de Dufourny, mais il servait aussi son ami Girodet. Donc le peintre doit en fait à Dufourny et à Chateaubriand de pouvoir conserver sa place à l'Académie. Enfin, Chateaubriand, dans une longue digression, proposait d'établir ces académies réunies en institut, donc au Louvre. Il dresse alors ce qui constitue un véritable projet de musée, dont il détaille la muséographie salle par salle, allant même jusqu'à nommer les objets à exposer dedans. C'est un projet un peu visionnaire, parce que quand on le regarde, il correspond presque à ce que fait Charles X pour son musée Charles X au Louvre. Il a même la volonté de créer un lieu qui soit un lieu encyclopédique, puisqu'il veut y réunir la Bibliothèque nationale et tous les manuscrits, y compris les gravures. Donc c'est un projet qui ressemble ou qui peut ressembler aussi à ces musées Napoléon III qu'on le connaîtra plus tard. Et ce sujet sur lequel il s'étend longuement, qui paraît un petit peu curieux dans son texte, apparaît vraiment comme une digression. Donc on sait que Chateaubriand aime les arts, c'est certain, mais au point de penser aussi précisément un musée et de nommer des choses très caractéristiques, cela peut paraître douteux. Et je vous propose de voir dans cette partie du texte la trace nette de cette communauté de pensée, de cette réflexion collective dont Chateaubriand, grâce à sa position politique, grâce à son aura, grâce à son dos d'orateur, aurait pu se faire le porte-parole. Et c'est là, à propos de cette petite communauté de pensée, que le nom de Girodet revient, car une partie des propositions de Chateaubriand répond aux idées de notre peintre ou les reprend. La nécessaire unité des académies, d'abord, qui, comme des sœurs, doivent se tendre la main parce que les arts ont entre eux des liens secrets. C'est une idée que Girodet pose et proclame dès 1800. Voici ce qu'il en avait écrit dans son poème. Les beaux-arts ont entre eux de douces sympathies, des enfants d'Apollon vivement ressentis. Ils se prêtent souvent un mutuel secours et cet échange heureux leur profite toujours. Donc je vous rappelle les mots de Chateaubriand qui sont les académies se prêtent à un appui mutuel. Voilà, on a le mutuel qui est repris. Et c'est une idée fixe chez Girodet, c'est vraiment une idée qui lui tient à cœur. Il insistait encore lors d'une communication à l'Académie en 1817. Les domaines des beaux-arts, quoique distincts, sont limitrophes. Ils doivent toujours avoir entre eux, comme les grands États de l'Europe, lorsqu'ils sont en paix, des communications faciles. La réunion savante à laquelle nous nous honorons d'appartenir n'est-elle point une preuve irrécusable de l'utilité de ces échanges continuels, de ce commerce actif, d'instruction et de lumière qui tourne toutes au profit de l'art et de la science ? Donc c'est une idée d'ailleurs qui figure symboliquement sur sa tombe, puisque vous voyez, j'espère que c'est assez clair, qu'en sont entrecroisés la palette, les pinceaux, la lyre et le flambeau, avec la couronne d'olivier. Une deuxième idée commune à Girodet et Chateaubriand apparaît encore dans l'article, c'est le regret profond de la restitution aux alliés des objets d'art issus des conquêtes de guerre. Donc restitution qui s'était effectuée pour l'essentiel dès septembre 1815. Donc, c'est que restitution, au dire du biographe de Giraudet, est réellement une grande catastrophe, un événement qui le frappe vivement, dont il ne pouvait se consoler. À ce moment-là, il fait même mouler à ses frais tous les plâtres des antiques du musée. Et cette proposition est tout à fait contraire à la politique de Louis XVIII, puisque Joachim Le Breton, qui a été à ce moment-là secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, s'est trouvé destitué, non pas pour avoir fait partie de cette classe des Beaux-Arts sous les 100 jours, mais bien parce qu'il militait contre la restitution des objets d'art aux Alliés. Et c'est alors que Quatremer de Quincy remplaça Joachim Le Breton. Enfin, le texte de Chateaubriand cite nommément Giraudet à propos du décor à donner à son projet de musée, et il le cite de façon appuyée. Je vous lis ce petit passage. « Je voudrais employer nos plus grands artistes à peindre à fresque sur les murs de ces salles des sujets tirés à notre religion et de notre histoire. Croyez-vous que des fresques peintes par Gérard, Giraudet, Guérin et Gros ne seraient pas admirables ? Nous aurions aussi l'éloge de notre Vatican. » Donc c'est très lyrique, à la manière de Chateaubriand. Mais vous pourrez remarquer que sur le manuscrit, Chateaubriand a inversé les noms Gérard et Giraudet. Gérard paraissait avant Giraudet, il le restitue devant, et l'article, en effet, placera Giraudet avant Gérard. Donc voici quelques éléments que je vous soumets et qui me semblent expliquer pourquoi Giraudet peut être associé à la renaissance de l'Académie des Beaux-Arts d'une autre manière que par sa simple nomination. La démonstration pourrait se poursuivre en détaillant les liens que l'artiste entretenait avec le ministre de l'Intérieur, qui a porté le projet de cette renaissance, le comte de Vaublanc, donc ce comte de Vaublanc qui signe l'acte de création, aux côtés de Louis XVIII. Les deux signatures apparaissent sur l'acte. Vaublanc a été nommé ministre de l'Intérieur le 26 septembre 1815, et Giraudet est justement en correspondance avec lui à ce moment-là. L'artiste lui rappelle d'ailleurs opportunément que leurs familles se connaissent. Vaublanc possède en effet des parents à Montargis, et dans les collections du musée figure ce portrait du ministre. Je vous lis pour le plaisir cette lettre courtisane adressée par Giraudet en 1815 au comte de Vaublanc. « Je joins à ce motif, monseigneur, l'honneur qu'avait mon père d'être intimement lié dans ce pays-ci à des parents respectables que vous chérissez et qui m'honorent eux-mêmes de leur bienveillance. C'est à ce double titre que j'ose demander à votre Excellence la permission d'aller à mon retour à Paris lui rendre mes respectueux devoirs. Je la supplie dès à présent de daigner agréer mes vœux pour son bonheur parfait et pour qu'elle puisse faire pendant une longue suite d'années tout le bien qu'elle désire. » Donc l'allusion est à peine voilée parce que si Giraudet suit son idée de retrouver le ministre, il le retrouve dès janvier 1815. Cette lettre est une lettre de bonne année, de vœux de bonne année. Et donc, janvier 1815, on est vraiment au moment où se dessine l'Académie des Beaux-Arts. Donc, c'est un sujet vraiment essentiel. Vaublanc tirait son pouvoir de sa proximité avec le comte d'Artois, que par ailleurs Giraudet courtisait lui-même pour recevoir la charge de peintre attitré du comte d'Artois en mémoire de la charge de docteur par quartier que le docteur Triozon possédait. Donc le comte de Vaublanc est un ultra, il ne restera que très peu de temps au ministère de l'Intérieur. Sa politique extrême n'était pas tenable. Victor Hugo nous rappelle même que Vaublanc était allé jusqu'à faire bûcher les haines sur le pont d'Iéna. Malgré ceci, c'est vraiment une personnalité importante, un acteur de premier plan vis-à-vis de la création et de la renaissance de l'Académie des Beaux-Arts, puisqu'il contresigne cette ordonnance. Et surtout, il propose de créer un ministère des Beaux-Arts pour Chateaubriand. Malheureusement, la proposition fut refusée par le duc de Richelieu. Donc on voit bien là la connivence entre Vaublanc, Chateaubriand et, en homme de l'ombre, en trait d'union entre les deux, Giraudet. Vaublanc sera élu à l'Académie des Beaux-Arts le 6 avril 1816, parce qu'il aura réussi à chasser David, évidemment, de l'Académie. Et durant tout le temps de son ministère, Vaublanc a vraiment porté un autre projet avec énergie, c'est celui de la création du prix de peinture de paysage historique de l'Académie, comme il existait le prix de peinture d'histoire, création qui aboutira en effet, même s'il ne sera plus alors en poste, en 1817, et c'est une création à laquelle Giraudet prit une grande part, une part importante. Donc se rencontre ici une autre, peut-être une autre communauté de pensée entre Vaublanc et Giraudet. Vous l'aurez compris, Giraudet me semble trop proche des créateurs de l'Académie pour ne pas y avoir participé d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par des discussions au moins. Il était peintre, mais aussi poète, théoricien, un penseur actif, comme ses écrits le montrent. Et pour argumenter davantage, on pourrait aussi remarquer que la moitié des académiciens libres, élus en 1816, sont aussi très proches de lui. C'est par exemple le comte Turpin de Crissé. Ils avaient une amitié proche et ils partageaient de mêmes vues sur le paysage. Le comte de Forbin, ce comte de Forbin qui, à la tête des musées royaux, fera entrer Atala au tombeau, Endymion au musée royal. Le vicomte de Senones, qui partage avec Giraudet des liens dans d'autres associations artistiques. Ou Antoine-Laurent Castellan, qui est également proche de Giraudet autour du paysage. Pour terminer ces quelques mots sur Giraudet 1816, je vous dresserai un bref bilan des premiers instants de Giraudet à l'Académie des Beaux-Arts. La première participation du peintre à une séance date du lundi 1er avril 1816. Donc il fréquente un lieu qu'il connaît bien, puisque depuis 1805, l'Académie est dans ces lieux, au Palais d'Institut. Or, Giraudet a fréquenté le palais alors qu'il se nommait Collège des Quatre Nations. Il l'a fréquenté comme étudiant, puisque dès 1781 et jusqu'en 1784-85, il avait étudié les mathématiques au Collège des Quatre Nations. Et il le connaît aussi d'autant mieux qu'on lui avait attribué un logement avec les autres artistes en 1802, quand tous les artistes sont évacués du Louvre pour que le Louvre devienne musée. Il y habite quelque temps, guère longtemps, environ 2 ans, puisqu'il est répertorié habitant là jusqu'en 1804 au moins. En 1805, déjà, on sait qu'il est ailleurs. Donc Giraudet, comme cette caricature vous le montre, est un académicien très dynamique. Il assiste fidèlement aux séances et il participe à de nombreux travaux. Dès le 3 avril, il concourt à l'élection des académiciens libres et à la fin du mois, il commence ses lectures par des considérations dans les arts du dessin. Giraudet participe aussi au jugement des prix de Rome. Il signe par exemple le jugement définitif du prix de Rome de 1816, où le lauréat est Antoine Jean-Baptiste Thomas avec ce tableau. Et il participera fidèlement à ces jugements des prix jusqu'au 27 mars 1824, qui est la date de sa dernière apparition aux séances de l'Académie des Beaux-Arts. Il fait aussi partie des commissions chargées de déterminer les sujets des prix. C'est ainsi qu'il décide avec Guérin, Quatremer de Quincy et Léonore Mérimée du sujet du premier concours du paysage historique en mars 1817. Et ce sujet parle particulièrement aux amateurs de Giraudet, puisqu'il s'agit de Démocrite et les Abderitains. Et c'est un sujet que Giraudet avait imaginé peindre pour le docteur Triauzon. Donc là, on peut, sans se tromper, savoir que Giraudet a fortement influencé la décision du jury. En 1816, il rédige encore le rapport sur les ouvrages des pensionnaires de l'Académie de France à Rome, rapport où il est assez sévère, et il critique très sévèrement la psyché de Picot, qui pour lui manque d'âme. Il critique très sévèrement aussi ce Mercure et ce Prométhée de Palière, donc le Mercure a le regard trop terne, trop atone, le Prométhée a un corps bien trop athlétique. Il critique également l'Anacreon de Forestier. En revanche, il apprécie beaucoup la mort d'Abel de Drolling, qui a parfaitement observé les convenances et senti l'expression de son sujet. À cette séance de l'Académie, où il fait lecture donc, de ses considérations, Giraudet remporte d'ailleurs un succès d'orateur dont se font écho les journaux. Voici un extrait de journal de ce moment-là. Dans une fort belle péroraison, Giraudet a retracé les obligations que les arts avaient au monarque qui les honore de sa bienveillante protection, sans les flétrir par des chaînes avilissantes et par un égoïsme odieux. Tout ce morceau a été couvert d'applaudissements unanimes. Par ailleurs, Giraudet fait partie de plusieurs commissions examinant les avancées théoriques et techniques dans les arts, en particulier de celles chargées d'examiner la technique lithographique. Donc Giraudet s'essaye lui-même à la lithographie le 30 juillet 1816 en reproduisant simultanément sur une pierre donc lithographique des dessins de vases grecs, mais de 3 manières différentes, au crayon, à la plume et au pinceau. Et le jour où les 2 promoteurs de la lithographie, que sont Godefroy Engelmann et Pierre-Antoine Mongin, viennent en séance présenter leur recueil, Giraudet réalise ce portrait de son élève Coupin de la Couperie pour appuyer leur démonstration. Donc les conclusions de l'Académie sont évidemment très favorables, et c'est de ce moment que date vraiment l'essor de la technique lithographique. À la fin de l'année 1816, le 23 novembre, très exactement, Giraudet est aussi nommé à la commission du dictionnaire que l'Académie préparait depuis 1806. Donc il va désormais travailler aux côtés de Guérin pour tous les sujets touchant à la peinture. Sa contribution, parce qu'il meurt assez rapidement, se limite à deux articles. De l'originalité dans les arts du dessin, une communication lue, votée et adoptée le 14 juin 1817, et une seconde sur l'ordonnance en peinture, lue, votée et adoptée le 2 mai 1818. Donc la lecture de ce dernier article de l'ordonnance en peinture a donné lieu, selon le biographe de Giraudet, qui s'appelle Alexandre Coupin, à une discussion fort animée. Ce sont les mots de Coupin, je pense qu'il faut les prendre comme un euphémisme et comprendre qu'il y a eu une bataille rangée autour de cet article. La raison de l'appellation employée par Giraudet, tableau d'apparat, et cette raison de bataille, donc c'est une bataille qui date de longue date, puisque cela fait référence à des problèmes arrivés lors des jugements décennaux en 1810, où Giraudet a vaincu son maître David, et cela posait de grands problèmes politiques. Mais parce que l'Institut avait considéré que le tableau de David, le sacre, avec lequel David concourait, ne pouvait pas être un tableau d'histoire, puisque c'était un tableau, en quelque sorte, commandité par un pouvoir politique. Or, la scène de déluge de Giraudet, elle, était vraiment un tableau d'histoire. Donc, vous voyez, c'est des arcanes subtiles qui ressortent à ce moment-là. Les opposants de Giraudet ne sont pas clairement identifiés, mais je pense que figurent parmi eux Quatre Mères de Quincy, puisqu'il va publier derrière un texte assez contradictoire par rapport à ce que Giraudet a pu écrire, et peut-être même Antoine Jean Gros, qui était extrêmement fidèle à David à ce moment-là. Donc les procès-verbaux enregistrent en effet la démission de Giraudet, le 31 octobre 1818. Cependant, Giraudet avait pu faire passer son texte auparavant en commission. De dépit, Giraudet délaisse quelque peu l'Académie. Il s'en ouvrait à Turpin de Crissé en juillet 1821, affirmant que l'oubli du tapis vert lui rendait la santé. Il réitérait à François-Xavier Fabre aussi au mois d'août suivant « Je devrais vous donner des nouvelles de notre Académie ». Mais je n'y parais pas souvent. Le tapis vert de l'Institut, que je révère comme il convient, ne me plaît pas autant que celui de mes gazons. À propos de vert, juste quelques mots sur l'habit d'académicien de Giraudet, qui, curieusement, ne s'est pas retrouvé dans son inventaire après décès. Donc c'est curieux dans la mesure où, dans cet inventaire, tout est noté, détaillé très précisément. On connaît même le nombre de confitures qu'il avait dans sa chambre à coucher. Et que dans d'autres inventaires, c'est d'autant plus curieux que dans d'autres inventaires, comme celui d'Antoine Jean Gros, le vêtement d'académicien est très bien identifié. Dans l'inventaire Gros, on cite un habit et une veste de membre de l'Institut. Donc l'explication à ce manque se trouve dans le journal d'Étienne de l'Écluse, Étienne de l'Écluse qui reprend la critique d'art au journal des débats, après Boutard, qui note dans son journal à la date des obsèques de Giraudet, le 13 décembre 1824. On assure que Giraudet n'était rien moins que prodigue. On cite une singularité de lui qui pourrait, aux yeux de certaines gens, servir de preuve à cette proposition. Depuis qu'il a été nommé de l'Institut, il ne s'est point fait faire d'habit uniforme, et chaque fois qu'il avait l'idée d'assister à une séance, il empruntait celui de Bozio. Comment faisait ce dernier quand la même envie lui prenait le même jour ? C'est ce que je ne saurais dire, mais le fait paraît avéré. Et vous avez donc sous les yeux l'habit d'académicien de Giraudet, puisque c'est celui de Bozio que Bozio porte. Donc on peut déjà conclure que Bozio et Giraudet avec la même stature, ça c'est certain. Mais surtout, je pense qu'on peut répondre à l'interrogation de l'Écluse, puisque l'un devait porter le petit habit d'académicien et l'autre le grand habit. Donc cette désinvolture de Giraudet n'était bien sûr qu'apparence. Le titre d'académicien avait vraiment une importance pour lui, et une importance telle qu'à la fin de sa vie, il cherchait même à se faire élire à l'Académie française. Un de ses élèves, Lancrénon, a ainsi révélé que, je cite Lancrénon, « la paternité littéraire était plus chère à Giraudet que la peinture. Par elle, il aspirait à obtenir un jour son admission à l'Académie française. ami d'une grande partie de ses membres, il pouvait l'espérer. Giraudet s'éteignit avant de pouvoir accéder à ce nouvel honneur, mais il en reçut bien d'autres. Le 24 août 1816, il fut élu professeur de l'École des Beaux-Arts à la majorité absolue. En 1816 également, il fut fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel, puisque cet ordre venait d'être recréé. Et toujours cette même année, il reçut de très nombreuses commandes de tableaux pour la galerie de Diane aux Tuileries, pour l'église de la Madeleine, ainsi que deux portraits pour la série des portraits de chefs vendéens. Mais le titre, parmi tous ces titres, auquel il resta le plus attaché, fut celui d'académicien, comme il l'écrivait en février 1822 à son élève François-Louis de Juines. Si vous me permettez de vous dire ce que je croirais plus convenable et surtout ce que j'aimerais mieux qui fût mis au bas du portrait que vous avez pris la peine de dessiner d'après moi, le voici. Anne, Louis, Giraudet, Triauzon, peintre d'histoire, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Et voilà tout. Les autres particularités se seront toujours après ma mort, si l'on croit avoir intérêt de s'en informer. Merci.
Merci Madame Lemeux-Fréteau pour cette communication fort intéressante. Quelle a été la fortune critique de Giraudet après au 19e et au début du 20e?
C'est une très belle fortune critique.
Est-ce qu'il a eu un purgatoire? Non, jamais.
Oui, il a eu un purgatoire puisque Baudelaire nous le dit. Baudelaire nous dit que dans les années 1845, au moment où se tient une grande exposition où les romantiques paraissent, il s'élève contre ceux qui critiquent Giraudet en disant qu'ils paraîtront bien bêtes un jour à côté de la Thalade Giraudet. Voilà. Donc dès après la mort de Giraudet, il y a une critique de sa peinture qui est pour le moins originale et très académique par certains côtés. Mais son héritier spirituel, dirons-nous, Antoine César Becquerel, veille. Et tout au long du XIXe siècle, il y a un vrai enthousiasme lors des ventes pour les tableaux de Giraudet.
Merci. Y a-t-il des commentaires, des questions? Personne. Aymeric Zubléna, monsieur architecte.
Vous évoquez au début de votre exposé, de votre conférence, un texte du Fourny, et vous dites que dans ce texte, il est question de séparer l'Académie des Beaux-Arts de l'École des Beaux-Arts.
Oui, il s'élève.
Et je constate qu'en 1824, Giraudet, qui fait partie de l'Académie des Beaux-Arts, participe au jugement du Grand Prix de Rome, qui, de façon ou d'une autre, dépend de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, d'abord, pourquoi cette idée de vouloir séparer l'Académie des Beaux-Arts de l'École des Beaux-Arts, idée qui sera reprise un peu plus tard par un ministre. Et voilà, quelles étaient les idées sous-jacentes dans ce texte?
Je pense que la grande idée sous-jacente, c'est de libérer les jugements des élèves de l'emprise des maîtres. Et voilà, je pense qu'il y avait vraiment, disons politiquement, au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, une grande emprise de l'Académie sur le jugement des prix des jeunes élèves. Et donc l'idée est de séparer l'école et les prix que pouvaient obtenir les jeunes élèves des jugements des académiciens. Mais je pense que c'est sans effet, puisque de toute façon, on sait très bien qu'étaient professeurs à l'École des Beaux-Arts, les académiciens. Donc l'idée sous-jacente, c'est une espèce de garantir une démocratie dans le jugement des prix.
Abouti donc en 1967.
C'est ça.
67.
Ah. Le grand prix, le dernier grand prix d'architecture des autres, et je pense des autres, c'est 1967. Alors je ne sais pas si Malraux a décidé en 68 ou en 67, c'est-à-dire après.
C'est ça.
Et est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, puisque nous sommes entre nous, de la donc du musée Giraudet, de la collection Giraudet.
Ah là, oui, la collection Giraudet au musée Giraudet. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est la deuxième plus grande en France après le Louvre. Voilà. Il y a en tout 22 toiles, de très nombreux dessins donc, que vous pourrez admirer. On doit surtout à Antoine César Becquerel, que j'ai cité tout à l'heure, la grande partie de ses collections Giraudet, puisqu'il a eu à cœur à léguer au musée les toutes premières œuvres connues de Giraudet. Et depuis, les acquisitions se sont poursuivies à un rythme assez régulier, surtout après l'exposition de 1967, qui était le premier bicentenaire, la célébration de la naissance de Giraudet, et où, à la faveur de cette exposition, il y a des dons importants de faits et aussi des grandes acquisitions, en particulier les dessins d'Ossian que vous pourrez voir.
Ah, qui sont au musée
voilà. La plus.
Bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on va voir l'exposition, là, après, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au musée que Giraudet?
Alors, la deuxième grande figure, c'est Henri de Tricty, le sculpteur qui a réalisé les portes de la Madeleine, qui a fait aussi le tombeau du prince Ferdinand d'Orléans, et qui est une très belle figure également, qui parcourt tout le XIXe siècle, sculpteur romantique, grand penseur également, puisque c'est lui qui a pensé le musée Giraudet dans son architecture même. Les collections du musée s'organisent autour de ces deux grandes figures, mais possèdent également un fonds ancien très important et très beau, puisque constitué par des éminents savants et connaisseurs à la toute fin du XIXe siècle.
Et le musée va rouvrir avec une exposition particulière ou...
Alors, le musée va rouvrir en janvier, début 2017.
Dans moins d'un an.
Dans moins d'un an maintenant. Et il rouvrira avec une exposition particulière parce que, grâce au travail de tout le musée, de nombreux Giraudets méconnus vont arriver sur les cimes du musée. Voilà, des Giraudets qui figuraient en réserve dans certains musées, que nous sommes allés voir avec grand plaisir nous avons le bonheur de pouvoir les présenter bientôt. Et puis, sans doute, oui, une grande exposition rétrospective. En fait, on va certainement organiser une grande année Giraudet en 2017, à la faveur donc des 250 ans, l'anniversaire des 250 ans de sa naissance.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de Giraudet pédagogue? Parce que ça a été trois mots.
Alors, c'est amusant parce que autant David a eu un atelier magnifique, immense, dont on connaît l'importance, autant Giraudet a eu un atelier dont on méconnaît tout parce que visiblement, il était extrêmement paternaliste. Donc, il avait des liens très forts avec ses élèves, filiaux, et je pense qu'il avait en quelque sorte une sorte d'emprise, une emprise spirituelle sur ses élèves qu'ils ont peut-être empêché pour certains de voler de leurs propres ailes, comme on pourrait dire.
Un gourou.
Une petite question. Félicitations, Sidonie, pour cette remarquable conférence. J'avais une petite question simple. C'est aurons-nous la chance prochainement, sachant que tu es débordé, de pouvoir trouver dans un recueil à publier les belles lettres de Giraudet? On sait que c'est une plume assez remarquable. Beaucoup, d'ailleurs, de personnalités de l'époque le sont. Mais ayant eu la chance, justement, de pouvoir lire des lettres avec des descriptions, que ce soit parlant de ses portraits ou même des lettres d'amour, hein, carrément, est-ce qu'on pourrait envisager ça prochainement? Voilà, c'est une petite question.
Alors, oui, la question de la correspondance de Giraudet est en effet une très bonne question. Bruno Chenic y a travaillé, puisqu'il a fait la transcription de l'essentiel du fonds du musée Giraudet. Le musée Giraudet porte un projet de numérisation de toutes les lettres de Giraudet. Dans l'idéal, ce qu'on souhaiterait, c'est faire un petit peu comme le musée de la Croix. Voilà. Ce serait une chose merveilleuse, mais il faut du temps, de l'énergie, des finances. Et donc, sans doute, cela arrivera à la faveur du centre que nous souhaitons créer au musée Giraudet, qui serait vraiment un centre de recherche sur le 19e siècle et l'art du 19e siècle.
Avec qui a-t-il correspondu alors?
Beaucoup de personnes. Tous les.
Il a pas eu des...
Il a évidemment toutes les lettres avec ses parents qui sont très émouvantes parce qu'on a des lettres de Giraudet quand il a 7 ans, quand il a 9 ans, quand il a 12 ans. Donc c'est vraiment extrêmement émouvant et très précieux aussi, je pense, pour les historiens du XVIIIe siècle, puisqu'il raconte par le menu son éducation, ses visites. Il y a tout un fond avec le docteur Triozon, bien sûr. Donc ça, c'est aussi un fond très intéressant pour l'histoire peut-être plus locale, mais aussi politique, puisque le docteur Triozon faisait partie de ses parlementaires sous la royauté. Et puis il y a tout ce fond de correspondance avec ses commensaux, ses condisciples, une correspondance aussi très intéressante avec Antoine César Becquerel, puisque là, du coup, on verse un petit peu du côté scientifique. Et puis des noms, on trouve une lettre à Bonaparte, on trouve des minutes de lettres à d'autres personnalités très connues. Donc je pense que c'est un fond qui peut vraiment intéresser, au-delà de l'histoire de l'art, l'histoire et les sciences.
Ce fonds est à Montargis.
Ce fonds est à Montargis, oui. Et la bibliothèque des musées nationaux possède une autre partie du fonds.
Très bien. Bien, ben, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent intervenir ? Ben, merci beaucoup. Nous allons découvrir dans quelques minutes l'exposition, enfin à 18h, on a un petit quart d'heure, l'exposition à Salle Comtesse de Caen et... Nous irons voir le musée. Vous avez déjà la date précise de la réouverture ? Non, c'est pas...
Non, peut-être que Pascale Gardès, qui est responsable et directrice du musée, nous en parlera tout à l'heure. Oui.
Très bien.
Voilà, donc je laisse à Pascale Gardès l'honneur de vous annoncer cette réouverture.
Merci.